Sans plus tarder, on va plonger nos regards dans la parole de Dieu, avec ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur, avec le titre de ce partage, qui est « La puissance de la différence ». La puissance de la différence. Dieu appelle son peuple, et son peuple, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes les pierres vivantes, nous formons l'édifice du Seigneur Jésus. Et donc, Dieu appelle son peuple, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, à oser être différent. Et aujourd'hui, plus que jamais, on doit pouvoir donc apporter ce message qui est tellement déterminant dans ce monde de confusion. Vous le voyez, vous l'avez vu encore au travers des événements là, qui prennent place, hein, les infos, voilà, des choses qui doivent arriver. On le disait hier avec les jeunes, hein, vous savez, le Seigneur nous a avertis. Quand il nous a avertis, c'est pour pas tomber dans l'inquiétude ou la peur de quoi que ce soit. Le Seigneur nous dit, ben, ces choses-là, il faut qu'elles arrivent. Mais quand elles vont arriver, notre responsabilité, c'est quoi? Le Seigneur, c'est un conseil, il dit, ben, mais vous, relevez la tête. Relever la tête dans une certaine direction. Et là, ça me faisait penser au psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, en direction des montagnes. Et c'est là, en fait, où je vais retrouver de la foi, de la confiance. Et ma vie, elle est toujours entre les mains du Seigneur. Alléluia. Alors, Seigneur, ce qu'il veut pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions oser également être différents dans un monde qui cherche à uniformiser. Vous l'avez vu, hein, à tous les niveaux. Par exemple, aujourd'hui, au niveau de l'habillement, la façon de penser, il y a, je trouve en tout cas, moins cette direction de ce qu'on est différent, mais de cette différence, le Seigneur veut en faire une unité ensemble. Ça, c'est un vrai miracle. C'est un vrai miracle de savoir que nous sommes nous-mêmes différents, mais qu'au travers de cette différence, le Seigneur nous unit donc en tant qu'Église. Et dans un monde qui cherche à uniformiser, et à diluer la vérité et également à effacer la sainteté, alors que ce sont des choses tellement primordiales et fondamentales pour la marche et la vie chrétienne. Nous ne voulons pas nous laisser uniformiser, diluer le vrai message. Le message est toujours le même. Ce message que nous proclamons en tant qu'Église, c'est un message qui a la capacité et la possibilité de changer une vie. D'ailleurs, nous en avons été au bénéfice. Un jour, on a entendu le message de l'Évangile, ça a percuté nos cœurs. Ça nous a bouleversés de manière extraordinaire jusqu'à nous ébranler, mais de l'intérieur. Et à un moment donné, donc, il y a eu cette révélation de Christ et, comme ça a été dit ce matin, cette approbation est... On a entendu cette voix nous dire qu'il nous aimait et qu'il avait un plan pour notre vie. Merci Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Nous ne voulons pas diluer la vérité ou effacer la sainteté. Parce que sans la sainteté, personne ne verra Dieu. La sainteté, c'est quelque chose de primordial. Hein, quand on parle de sainteté, il y a deux définitions dans la Bible au niveau de la sainteté. C'est la pureté. Et c'est également la mise à part. Moi, je bénis Dieu parce qu'il nous a mis à part, alléluia, pour former son peuple. On va le voir un peu plus loin. Alors, j'aimerais vous dire d'emblée, en introduction, que c'est que la différence n'est pas un fardeau. Ne doit pas être un fardeau. La différence, c'est une mission. Nous sommes différents, nous avons été transformés, donc on n'est pas dans cette uniformité que le monde, dans lequel le monde voudrait donc que l'on soit. On est différent, c'est pas parce que voilà, on était meilleur que qui que ce soit, mais c'est un effet de la grâce de notre Dieu. Amen. Avec une mission. Notre mission, c'est de proclamer à ce monde qui est perdu que Jésus est la vérité et la seule vérité. Amen. Alléluia, vous avez l'opportunité de dire amen quand il vous semble que c'est la vérité. Hein. Vous le savez, amen, ça veut dire oui, c'est vrai. J'acquiesce donc ce que le pasteur est en train de dire. Parce que du coup, si c'est le moment d'apporter et d'acquiescer. Si on ne le fait pas, on est peut-être comme déstabilisé. Mais c'est sûr que, pas amen pour amen, mais de dire, voilà, le Seigneur est notre sauveur, notre Seigneur, et il nous donne cette mission, c'est de proclamer le vrai message. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de communiquer le vrai message de la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a un message qui est dilué, hein, même dans l'annonce de l'Évangile. On entend aujourd'hui plus que jamais ce message. Viens au Seigneur Jésus-Christ et tous tes problèmes seront terminés. Qui a compris que ce n'est pas tout à fait le vrai message? Parce qu'en fait, les problèmes sont toujours là. On est d'accord? Les problèmes sont là, les difficultés sont là. Mais le Seigneur nous a fait une promesse. Il nous a dit qu'il serait avec nous tous les jours, qu'il nous accompagnerait, qu'il nous soutiendrait dans les épreuves que l'on peut traverser. Alléluia. Donc, c'est une mission. Le vrai message, c'est de dire que finalement, si une personne n'est pas au Seigneur, elle court le risque de passer l'éternité dans un endroit de pleurs, de grincement de dents, de regrets éternels et de souffrances atroces. Et ce n'est pas la volonté de Dieu, on le sait. La volonté de Dieu, c'est que nous tous, nous soyons dans un endroit de joie, d'amour, de félicité, de communion. Amen. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Alors, le message, c'est celui-là. Alors, au premier abord, il peut paraître pas populaire. Si on dit que finalement on est perdu et qu'on prend le risque donc d'être perdu, c'est pas populaire, mais c'est le vrai message. Et le vrai message, c'est celui-là en fait. Alors évidemment, il faut le faire avec tact, avec délicatesse, avec la sagesse d'un homme. Cette semaine, je pensais à la sagesse. Sûrement que dans quelques dimanches, on va en parler de cette sagesse dont on a besoin. Je bénis le Seigneur parce que dans l'épître de Jacques, il est dit que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu, et Dieu va lui accorder. Hein. Des fois, quand on lit c'est pas ça, ils sont tellement simples. Mais nous, en tout cas moi, aurait tendance des fois à compliquer certains versets. Il faut qu'on prenne les versets tels qu'ils sont. Seigneur, je constate ce matin, je reconnais que de temps en temps, je manque de sagesse. Et j'ai besoin de la sagesse d'en haut, alléluia. Donc dans un prochain dimanche, on pourra en parler. La différence, ce n'est pas un fardeau, c'est une mission, c'est un témoignage et c'est également une source de vie. Amen. Qui, ce matin, au milieu de nous, est là parce que quelqu'un lui a témoigné de l'amour de Christ? Il y en a plusieurs, hein. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Parce qu'en fait, c'est un passage de relais. Hein? C'est ça, c'est dans la course, en athlétisme, c'est le passage de relais. Et donc, le Seigneur nous donne la possibilité d'être un témoin là où il nous place. Amen. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait avec chacun d'entre vous. Amen. Alors, quand on parle de différence, c'est tellement important. La différence, c'est une identité voulue par Dieu. Dieu nous a voulu différents. Il y a ce verset de 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre 2 verset 9 qui nous dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et nous disons amen à ces paroles. Le Seigneur nous éclaire ici avec l'action qu'il a accomplie. Il est dit « vous au contraire ». Alors quand il est dit « vous au contraire », c'est qu'on doit revenir un peu avant. Hein. Quand on revient avant, on s'aperçoit que il y a ici certaines personnes qui ne sont pas au Seigneur. Mais il dit « mais vous, il faut qu'il y ait une différence ». Il faut qu'il y ait une différence, et la différence, c'est dans l'identité que Dieu a voulu. Et dans cette identité, le Seigneur, comme pour que ce soit vraiment ancré dans nos cœurs, afin de ne pas douter, il dit, vous êtes une race élue. Vous n'êtes pas censé ignorer que dans quelques semaines, il va y avoir les élections. Hein, les élections municipales. Alors là, c'est on fait chacun notre propre choix selon la sensibilité, mais c'est pas ici le propos. Ce que je veux mettre l'accent dessus, c'est que sur le mot d'élection, nous avons été élus. Élus, c'est choisi. Et choisi pas par n'importe qui, par Dieu. Amen. Et ça, c'est un vrai miracle de me considérer comme choisi de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu s'est positionné sur ma vie en disant, je veux qu'il soit et qu'il devienne mon enfant. Alors, on sait que le Seigneur, dans toute sa grâce, ça va être toujours une proposition. Il propose et l'homme dispose. C'est tellement triste quand il y a des personnes, quand ils sont pas si loin finalement de découvrir le salut. Et donc, à un moment donné, il le refuse. Nous, notre responsabilité, c'est de prier, de continuer de prier pour que, en fait, les gens voient que, au travers de nous, il y a un message qui est véhiculé. Une race élue. On parle de race, on parle de peuple, on parle d'ethnie. Et donc, nous sommes ensemble. Moi, je bénis Dieu, parce que malgré nos différences, et il y en a à tous les niveaux, au niveau du caractère, on sait que dans l'Église, alors on le retrouve souvent quand on discute avec les collègues pasteurs, on en parle. En fait, dans toutes les Églises, il y a même les mêmes cas de figure. Il y a le frère, la sœur qui a un caractère vif, qui se pose pas trop de questions, on lui demande on va faire ceci, on va faire cela. Ok, pasteur, on est avec vous. Il y a celui peut-être qu'on doit encourager, tirer, venir avec nous. Je dis viens et tu verras qu'il y a des choses que le Seigneur peut utiliser de façon extraordinaire, mais en tout cas, dans les églises, c'est toujours les mêmes proportions de personnes que l'on retrouve. Mais nous sommes une race élue, choisie de Dieu. Et ça, quand on l'imprègne dans notre esprit, eh bien, ça va nous aider à ne pas douter. Ça va nous aider vraiment à avoir cette appropriation, dire, mais moi, je ne suis pas n'importe qui, je fais partie de ceux que le Seigneur a choisis. Vous vous rendez compte le privilège que nous avons? On a un privilège qui est immense. Le Seigneur t'a choisi, mon frère, ma sœur. Vous qui êtes là ce matin, le Seigneur vous a choisi. Amen. Et dans votre prière, dans notre culte personnel, on doit pouvoir le dire, Seigneur, merci pour ton choix. Alors, on comprend que ce n'est pas par nos mérites. Moi, personnellement, le jour où le Seigneur est venu me chercher, il n'y avait rien de bon en moi. Rien, rien, rien du tout. Mais le Seigneur, c'était son choix. Il est venu me chercher, alléluia. Donc une race élue, un sacerdoce royal. Est-ce que vous savez qu'il y a du sang royal qui coule dans vos veines? C'est plutôt dans le sens spirituel, on le comprend, évidemment. Parce que nous sommes les fils et les filles du roi. Amen. Ça nous parle de position. Ça nous parle de savoir qui nous sommes. Donc un sacerdoce royal. Une nation sainte, mise à part, qui marche dans la pureté avec un but, évidemment. Un peuple acquis. On sait où le Seigneur s'est acquis ce peuple. C'est à la croix du calvaire. Il y a un privilège pour nous, le peuple de la nouvelle alliance. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de citer. On n'avait pas le droit à ce salut. On sait que le Seigneur, donc, s'était choisi un peuple, peuple hébreu, juif, à devenir son peuple. Mais c'était l'ombre des choses à venir, parce que le Seigneur pensait déjà à nous depuis toute éternité. Et le Seigneur nous montre que, finalement, nous sommes ce peuple qu'il s'est acquis à un très grand prix, nous dira un verset du Nouveau Testament. Il s'est acquis un peuple à la croix du calvaire, alléluia. C'est un vrai miracle, quand encore, si on le regarde avec un regard humain et tout simple, en se disant, mais quand même, un homme qui meurt sur la croix, par sa mort, en fait, derrière ça, toutes les répercussions qu'il a pu avoir, c'est qu'il fait de nous, de chacun d'entre nous, donc un peuple acquis à la gloire de son nom. Alléluia. Jésus est à la tête de l'Église. Nous marchons à sa suite. Et notre responsabilité, ma responsabilité en tant que pasteur, c'est de veiller à ce que l'Esprit soit toujours au milieu de nous et que chacun d'entre nous, nous allions dans la bonne direction. Parce que des fois, juste si on dévie à peine un peu sur une grande longueur, s'il y a un petit décalage au niveau... maritime, ben on va s'apercevoir que petit à petit on va commencer à dévier et manquer le but. on doit se remettre toujours en question en tant qu'Église, chacun de nous individuellement, et dire « Seigneur, merci parce que nous sommes ce peuple acquis à un très grand prix. » Amen. Alléluia. Et il y a encore, ça nous donne de l'espoir, de l'espérance pour des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, de savoir que encore il y a des personnes qui doivent rentrer dans l'arche. Qui doivent rentrer. Elles ont besoin. Si aujourd'hui le Seigneur revenait, ils sont perdus pour l'éternité. On ne peut pas se résoudre à ça. Il faut qu'il y ait un cri qui monte de nos cœurs en disant « Seigneur, sauve !» Seigneur, sauve par un petit nombre comme par un grand nombre. Amen. Et on le voit encore aujourd'hui, donc plus de 2000 ans après, l'action accomplie par le Seigneur Jésus-Christ à la croix du calvaire a encore des répercussions sur des cœurs et sur des vies. C'est de la folie, ça nous dit la parole. C'est de la folie. On parle de la croix, on parle du Fils de Dieu qui a donné sa vie à la croix du calvaire. Ce message est capable de bouleverser une vie et de le changer complètement. Amen. Donc, nous sommes l'acquisition du Seigneur. Nous ne sommes pas dans cette liberté. Aujourd'hui, aujourd'hui, on l'entend un peu partout. Les hommes veulent être libres. Et puis, on s'aperçoit que plus ils cherchent la liberté, au plus ils sont enchaînés avec certaines addictions, certaines choses qui sont là. Mais le Seigneur, lui, et il veut que nous puissions comprendre que nous sommes le peuple acquis. Alléluia. Et regardez la suite. Une fois que tout ça s'est posé, quel est le but? Le but, c'est que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Tout ça, on doit se souvenir de ce qu'on a fait ce matin. Que nous étions dans les ténèbres. Donc, impossibilité de voir plus loin que le bout de notre nez. On pensait tout maîtriser jusqu'au jour où le Seigneur est venu avec sa lumière, avec la lumière de la parole de Dieu qui nous a éclairés. Et quand il nous a éclairés, on s'est reconnu comme pécheurs. En tout cas, c'est comme ça la nouvelle naissance. Si vous n'êtes pas passé par cette étape, il vous manque l'étape essentielle pour être sauvé. C'est de réaliser que je suis un pécheur et que je mérite une sanction. Et comme je mérite la sanction, j'ai dit « Seigneur, voilà, je mérite une sanction ». Et le Seigneur dit « Étant donné que tu reconnais et que tu te repens, alors je t'offre, moi, la vie éternelle, parce que la sanction, elle a déjà été payée il y a plus de 2000 ans à la croix du calvaire, et désormais tu peux être libre. Alléluia. Amen. Et ça, c'est merveilleux de pouvoir le vivre. Alors, nous, on doit l'annoncer. C'est la responsabilité de l'Église d'annoncer ce message, les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Donc, la différence commence par l'identité, pas par les efforts. On hérite d'une identité, hein. C'est ce que j'essaie de développer ici. On a une nouvelle identité, c'est tellement important. Parce que quand on sait qui on est, ça va nous empêcher, je le disais tout à l'heure, je le répète encore une fois, ça va nous empêcher de douter. Et puis, quand on sait à qui on appartient, ben, on réalise le privilège que nous avons, hein, je l'ai dit plusieurs fois déjà aussi, mais également notre responsabilité. Seigneur, aide-moi à comprendre ces choses-là. Alléluia. Le chrétien n'est pas appelé à se fondre à une culture, mais à refléter le royaume de Dieu dans ce monde de ténèbres. Amen. La différence n'est pas une option spirituelle. Elle fait partie de l'ADN du disciple. Beaucoup de croyants souffrent de vouloir plaire à tout le monde. C'est possible, hein? C'est impossible. On le comprend assez vite. Hein. À un moment donné, si on s'habille certains styles, certains vont critiquer. Ça a été fait par. Voilà, à un moment donné, quand il délivrait, il disait que c'était parce que c'était par les forces des ténèbres. Et puis quand il faisait autre chose, on disait voilà, on n'arrêtait pas de critiquer. Mais ça, c'est le propre de l'homme. Chacun d'entre nous, nous voulons nous souvenir que, ouais, en fait, on peut pas plaire à tout le monde, mais nous rappeler que Dieu nous a déjà approuvés comme une signature en bas d'une lettre. Comme cette appropriation. Et le Seigneur dit, mais a été approuvé par le grand Dieu de l'univers. Et si on est approuvé par Dieu, on n'a plus rien à prouver. Je répète, celle-là, il faut l'enregistrer. Si on est approuvé par Dieu, on n'a plus rien à prouver. Parce que ça, c'est la religion hein, qui va nous pousser à prouver notre amour. Ça va se faire naturellement. On va le voir encore une fois un peu plus loin. Donc, la différence comme identité. La différence également, c'est un courage à exercer. Une fois qu'on réalise qu'il y a une nouvelle identité qui nous a été donnée par le Seigneur nous encourage à pouvoir l'exercer. Il y a ce verset de Romains, chapitre 12, verset 2, que l'on connaît bien finalement. On connaît, hein. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si on pose la question dans l'autre sens, qui veut chercher ce qui est bon, agréable et parfait, alors il ne faut pas se conformer au siècle présent. Ce qui sous-entend qu'à un moment donné, il y a une différence. Une différence qu'on doit pouvoir voir dans nos prises de position. Elle doit pouvoir se voir, donc à un moment donné, pas en forçant le trait, tout naturellement, parce que nous avons été changés, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne prenez pas exemple sur le siècle présent. C'est ça, hein, ne pas se conformer. Souvent, quand on est au contact de certaines personnes, on s'aperçoit que, sans le faire exprès, on adopte certaines mimiques, certaines façons de faire, certains traits. Un jour, je me souviens, alors aujourd'hui, je peux le dire, c'est pas un gros mot, vieux, d'un vieux pasteur. Je me souviens d'un vieux pasteur, c'est pas un gros mot parce qu'on le retrouve dans la Bible. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Des fois, quand on dit vieux, on se sent agressé, mais pas du tout. Hein. Moi, pour pas avoir de problème, je dis le bel âge. Voilà. Mais ce vieux pasteur me disait, à un moment donné, quand on était en pastoral, avec les pasteurs en formation, donc les pasteurs stagiaires, on fermait nos yeux, et puis, en fait, on était attentif à ce que chaque stagiaire prie, et quand il priait, on savait qui était son maître de stage. Vous comprenez ? Parce qu'en fait, sans le faire esprit, il y a comme du mimétisme. Et ici, ce verset, c'est ce qui nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, alléluia, à l'intérieur. Alors quand on dit ça, on dit, mais alors c'est pas facile, parce que dans le monde dans lequel on vit, ben, il y a des difficultés, et des fois, il y a comme un peu une assimilation, et puis on fait des compromis, n'ayons pas peur de dire des gros mots, hein, un compromis, une acceptation de certaines choses. Alors c'est arrivé dans une sphère difficile, c'est le prophète Daniel. Le prophète Daniel, lui, il était dans une sphère difficile, c'est bien lui. Donc il a été déporté très jeune, il faisait partie de l'élite, merci Seigneur, parce qu'encore il y a des gens de l'élite qui sont touchés par le Seigneur, et gloire à Dieu, amen. On sait qu'au travers de tout cela, le Seigneur y touche toutes les sphères de la société. Amen. Et de ne pas se conformer au siècle présent, il l'a vite compris. Donc il est dans un pays étranger, et il a été déporté. Et regardez quel état d'esprit et quel état de cœur. Et ça nous montre qu'il était bien différent. Daniel chapitre 1 et le verset 8. Daniel, résolu de ne pas se souiller, avec les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Le mot qui est important ici dans ce verset, c'est résolu. Daniel résolu. Et là, on voit un homme sûr de ses convictions. Ce que je vous ai dit dans le premier point, donc il a compris qu'il était enfant de Dieu et donc qu'il y avait un témoignage et une fermeté dans ses convictions à apporter. Donc, il résolut. Quand on dit ça, nous, on aurait tendance à lire des fois la Bible comme un roman, une histoire, et puis on passe verset après verset sans réfléchir finalement aux conséquences. Il va y en avoir des conséquences. Et des conséquences, il était prêt à les affronter. Parce qu'en fait, tout a commencé par une résolution. La Bible nous dit que à tes résolutions répondra le succès Alléluia. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de frères et de sœurs résolus dans leurs convictions, savoir ce que l'on veut. Aujourd'hui, un peu comme nonchalant, un peu du monde, un peu du Seigneur. Il faut qu'on puisse marquer une certaine différence dans des sphères difficiles, là où le Seigneur nous place. Il n'y a rien de plus terrible quand, je ne sais pas, dans une société, dans une famille, quelqu'un puisse dire qu'il est né de nouveau et qu'on ne voit pas la différence au niveau de son langage, au niveau de sa tenue, comment il réagit face à l'attaque. Hier, avec les jeunes, on parlait d'injustice. Il n'y a rien de plus terrible que subir l'injustice. La Bible nous encourage, eh oui, elle nous encourage, elle nous dit, ben, vous ne subiriez pas, c'est l'apôtre Paul qui parle, un peu d'injustice. Parce que quand on réalise que le juste, Jésus-Christ, a donné sa vie. Et la pire des injustices, c'est bien celle-là. Lui, l'innocent. Et c'est ce que veut dire un peu l'apôtre Paul. Il dit, mais et vous subirez pas. Vous savez, alors je vais le dire comme ça, hein, que c'est bon pour la chair de subir de l'injustice. Je répète, vous n'avez pas l'air convaincu. C'est bon pour la chair de subir de l'injustice, parce qu'en fait, ça vient chercher quelque chose au fond de notre cœur, ça vient l'extraire. Souvent, on est étonné de ce qui peut encore rester au fond. Et des fois, au fond, c'est pas terrible. Et le Seigneur va se servir de toutes les situations pour que ces choses puissent remonter, afin qu'on en soit libéré. C'est ça le but, c'est qu'on en soit libéré. Alors que dans cette église, dans l'église où vous êtes, où le Seigneur vous a placé, que vous soyez résolu à faire et à être différent. Daniel ose dire non quand tout le monde dit oui. Alors, j'ai pas voulu la mettre ce matin, hein. Il y a une vidéo qui circulait à un moment donné. C'est-à-dire que quelqu'un, alors c'était un peu une caméra cachée dans une salle d'attente où des choses absurdes et ils sont tous au courant. Hein. Puis il y en a un qui rentre et lui n'est pas au courant. Et en fait, il fait ce que les autres font. Et il fait des choses absurdes qui vont au-delà même de ses convictions, de sa manière de penser. Et c'était en fait pour montrer que des fois, on suit un mouvement de groupe. Et nous devons marquer cette différence. Et lui, Daniel, il ose dire non quand tout le monde dit oui. La pression du groupe, c'est terrible. Hein, la peur du rejet. Si je dis que je suis chrétien, on va se moquer de moi. Ah, c'est le risque. On va m'exclure d'un certain groupe. Alors, pour l'exclusion, c'est quelque chose qui vient nous bousculer, ça fait mal. Mais si on est résolu, et si la seule motivation, c'est simplement de dire que de laisser un témoignage, alors le Seigneur va nous aider. Et tôt ou tard, c'est lui qui va nous justifier de sa propre justice, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Donc, la pression du groupe, la peur du rejet, et souvent la recherche d'acceptation, donc ça peut être les ennemis à la différence. Oser la différence, ça implique des choses. Ça implique des choix visibles. Au niveau de l'éthique, au niveau de la pureté, au niveau de la vérité, il faut que ces choix, la différence, puisse se voir, voilà, qu'on puisse le constater. Oser la différence implique des positions impopulaires, donc, mais nous voulons rester fidèles à la parole de Dieu. Alléluia. Oser la différence implique également des renoncements. Ne pas tout absorber de la culture ambiance. Ne pas être comme ces éponges qui prennent tout ce que l'on peut voir ou entendre. Mais au contraire, garder notre cœur fidèle au Seigneur. Alléluia. Amen. J'aimerais vous dire que dans des sphères difficiles, dans les endroits où le Seigneur nous place, où c'est pas si évident, et aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi pour dire que l'étau se resserre quand même. Aujourd'hui, si on dit qu'on est chrétien, il y a un certain respect, mais avec une certaine distance. Mais la différence, elle n'est pas naturelle, elle est courageuse. La différence n'est pas naturelle, elle est courageuse. Il faut du courage, comme Daniel, à son époque. Puis, le point suivant, la différence, c'est un témoignage qui transforme. Alléluia. La différence, c'est un témoignage qui transforme. Le Seigneur, dans le plus grand discours du monde, on sait qu'il y a des grands hommes de ce monde qui, à un moment donné, ont fait des discours mémorables, hein, l'histoire nous le rappelle. Mais le plus grand discours du monde, il se trouve dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Hein, donc, c'est les fameuses béatitudes. Et dans ces béatitudes, dans Matthieu chapitre 5 et le verset 13, il y a ce verset et cette déclaration pour nous faire comprendre qui nous sommes finalement au niveau du témoignage. Matthieu 5, verset 13. « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Il répète, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alléluia. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Quand je lis ça, on le constate tous ensemble, il n'a pas dit « vous serez » à un moment donné. À un moment donné, avec l'expérience, avec le temps, non, c'est une position acquise, affirmée par et confirmée par le ciel. Vous êtes le sel de la terre. On sait qu'à l'époque là, à cette époque là, le sel avait une signification de préservation au niveau de la pourriture, de certaines choses, préservement des aliments. Et le sel sert à donner du goût. Et là, je vis une période un peu difficile par rapport au sel, justement, parce que je suis quelqu'un qui salait beaucoup au niveau des aliments quand je mangeais. Et puis bon, il faut faire ce qu'il faut. Et donc là, je me suis résolu à mettre un peu moins de sel. Vous savez quoi ? Ah, je trouve tellement fade tout ce que je mange. C'est terrible. Priez pour moi. Hein. Priez pour moi. Non, c'est pour la santé. Hein. C'est important aussi de prendre soin de notre corps, évidemment. Mais vous êtes le sel de la terre. En fait, vous devez donner du goût. Et il n'y a rien de plus terrible quand quelqu'un dit « je suis chrétien ». Et puis finalement, un jour, quelqu'un avait pu constater, quelqu'un lui dit, mais moi, je suis chrétien, je suis né de nouveau. Et la personne lui dire, ben écoute, si c'est ça, être chrétien, ben j'en veux pas. Et ça, c'est terrible. Hein. En fait, c'est le sel qui ne donne plus de saveur, qui manque finalement son but. Je dois apporter cette saveur. Hein. Il est dit, mais si le sel, il perd sa saveur, c'est qu'il sous-entend qu'on peut perdre la saveur. Et ça va se faire peut-être avec le temps. J'ai connu des personnes qui, au début de leur conversion, étaient tout feu, tout flamme. Il fallait même canaliser, il fallait être prudent. Et, des fois, combien de fois, il a fallu rectifier les jeunes convertis. Viens voir, il faut que je te parle après un culte. Tu sais, il faut faire attention à ceci, à cela. Mais ça fait partie de la marche. Et puis, avec le temps, perdre la saveur. Moi, je fais une prière régulièrement dans mon cœur. Et ça me garde, ça me préserve. Et Seigneur, donne-moi de ne pas oublier tout ce que toi tu as fait pour moi, de me souvenir régulièrement de ton sacrifice à la croix du calvaire. Vous savez quoi ? Ça m'aide à garder la saveur. Ça m'aide à garder cette communion avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Bon, la question elle est posée. Hein. Si le sel perd sa saveur, avec quoi pourrait-on lui rendre ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Terrible, hein ? Ça veut dire qu'il y a des conséquences. En fait, ça ne sert à rien. C'est un peu comme l'histoire de cet arbre qui est planté au mauvais endroit. Puis à un moment donné, et là on voit la patience de Dieu. Hein. Mais avant de le couper, entreprends quand même de le tailler différemment. De mettre peut-être de l'engrais pour que lui donner l'opportunité, lui donner une chance de pouvoir changer. Puis il dit, mais si finalement, à un moment donné, il n'y a pas le fruit escompté, il faut l'arracher. Il faut l'arracher. Et ça, c'est la partie un peu aujourd'hui où on n'entend pas trop. Où Dieu dit, non. Là, je ne suis pas d'accord avec ceci. Je ne suis pas d'accord avec cela. Mais pour cela, il faut entendre la parole de Dieu. Après, il y a cette histoire de vous êtes la lumière du monde. Vous savez que ça, c'est un message qui m'a bouleversé. C'est un verset qui m'a bouleversé. J'ai découvert que j'étais une lumière. Alors que toute ma vie, on m'avait dit que je n'étais pas une. Et oui, hein. Mais je viens au Seigneur, le Seigneur dit, mais tu sais quoi, tu es une lumière. Et ah bon? Au départ, j'ai douté un peu, hein, parce que ça ne se voyait pas trop. Mais avec le temps, c'est un acte posé par le Seigneur. Alléluia. Puis il y a cet exemple de, ben, une fois que cette lumière, elle est là pour éclairer le monde entier, il dit, ben, une ville située sur une montagne ne peut pas la cacher, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ça paraît tellement logique. Je bénis Dieu qu'il nous parle au travers d'images aussi simples. Là, un enfant est capable de l'entendre ce matin et de le comprendre. Donc on ne peut pas mettre une lampe dessous pour qu'elle éclaire, pour qu'il y ait l'effet escompté, il faut qu'elle soit mise en évidence. Alors oui, on doit oser la différence. Amen. Le monde n'a pas besoin d'une église qui lui ressemble, finalement, mais d'une église qui lui révèle quelque chose qu'il n'a pas. C'est ça donner du goût. Parce que la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc chaque être humain vit avec un vide dans son cœur et il n'arrive pas à le combler. Et si nous, si les personnes qui sont à notre contact n'arrivent pas à voir ce que leur manque, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein. Ce n'est pas par rapport à nous, c'est par rapport à notre position. Et alors ça va pouvoir se voir. Alléluia. Le sel ne sert que si... Et il est différent de ce qui touche. Il faut qu'il marque cette différence. Et la lumière n'a d'impact que si elle contraste avec l'obscurité. Il faut qu'il y ait un contraste, évidemment. Quand le chrétien ose être différent, les valeurs du royaume deviennent visibles. Amen. Les cœurs sont interpellés. Et le nom de Dieu est glorifié. Amen. Finalement, c'est ça le but de l'Église. Alléluia. Une lampe n'éclaire pas si elle reste dans un placard. On est d'accord? La différence doit être assumée et pas cachée. Alléluia. Quand on parle de différence, la différence, c'est une joie à vivre. La différence, donc je le disais tout à l'heure, c'est pas un fardeau, c'est une joie à vivre. Jean chapitre 15, verset 19. Il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Donc ici, le Seigneur nous a avertis d'emblée. Il y a une aversion pour tous ceux et celles qui sont au Seigneur. C'est marqué. Parce qu'en fait, il y a une différence énorme. Un autre verset qui nous parle du fruit de l'esprit, en fait. Et le fruit, regardez, c'est les quartiers, hein, d'un fruit. Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. On parlait de différence, on doit pouvoir retrouver ces choses-là dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un croyant. Et j'en prends un comme ça au hasard, parce qu'au début de ma conversion, il m'a joué des tours, celui-là. La maîtrise de soi, c'est terrible, hein, être maître de ses émotions. Être maître de son caractère, c'est pas si évident. Mais comment ça va se passer? Ça va se passer au plus je regarde le Seigneur, au plus je suis proche de lui. C'est qu'à un moment donné, la vie qu'il a en chacun d'entre nous, hein, c'est ça le Saint-Esprit, il va servir à ça le Saint-Esprit. Hein, c'est à refléter Christ et que ces fruits-là, à un moment donné, soient davantage évidents. Alors aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis davantage, alors je le dis, les personnes qui m'ont vu et me connaissaient avant le constatent aussi, et je peux affirmer que je suis plus maître de mes émotions et de mon caractère aujourd'hui que je ne l'étais à un moment donné. Alors ça donne de l'espoir à certains. Que Dieu nous aide, amen, à refléter la grâce de notre Seigneur, alléluia. La différence n'est pas un poids, mais c'est une grâce. Alléluia, être différent par rapport à certaines choses. Il y a juste, je prends un exemple de quelqu'un qui a été différent. C'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament. J'aime beaucoup ce personnage parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas de grandes histoires avec lui, mais simplement pour nous montrer, et j'aime beaucoup, c'est dans Nombre chapitre 14 et verset 24, c'est Caleb. Caleb, lui, voilà. Alors, quelqu'un a la définition de Caleb? chien, hein, voilà, il y en a qui savent, je ne sais pas, hein, s'appeler chien, surtout à l'époque, hein. C'était pas terrible, mais en tout cas, lui, il portait son nom, on ne sait pas pourquoi, mais quand même, je remarque, et parce que mon serviteur, ici c'est le Seigneur qui parle, et parce que mon serviteur Caleb a été animé de quoi ? De notre esprit, ce qui sous-entend qu'on peut être animé par un esprit, alors pas des possessions démoniaques, hein, mais une certaine façon de penser qui n'est pas bonne. Donc animé de notre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Alléluia. D'ailleurs, le temps va passer, il va demander son héritage. Il dit, mais je suis toujours fringant, hein, comme au premier jour. Oh, que le Seigneur nous aide. Alléluia. À toujours garder cette vitalité pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Un autre esprit, c'est quoi ? Un autre esprit, ça se manifeste par cette vision spirituelle de qui est le Seigneur. Une confiance totale. C'est ça, avoir un autre esprit. C'est une attitude positive. Souvent, on fait des constats, hein, certains, on discute, « Pasteur, il m'arrive ceci, il m'arrive cela », et puis comme abattu. Et on attend la seconde partie en disant, « Ok, il m'arrive une épreuve terrible, mais je sais que Dieu est avec moi, et que tôt ou tard, il va agir d'une manière ou d'une autre. » Et là, notre langage, il va changer, on va avoir cette attitude positive. On n'est pas dans la positivité un peu comme ça, hein, balancée un peu à tout va. Mais c'est des paroles de foi, finalement. Une attitude positive et surtout une fidélité constante. Alléluia. L'application pour nous aujourd'hui, garder un esprit différent. Refuser le pessimisme ambiant. Persévérer dans les promesses de Dieu. Dieu n'oublie jamais ce qu'il a dit. Je le répète peut-être pour quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Si Dieu t'a fait des promesses, il va les accomplir, c'est sûr. Ne laisse pas le doute t'envahir et déjà, commence à bénir Dieu pour la victoire qu'il est en train de te donner dans ta vie. Alléluia. Persévérer dans les promesses, demander, comme il a pu le faire, demander des montagnes, il a demandé ces montagnes, il a demandé le pays donc qu'ils avaient conquis, mais je viens chercher mon héritage. Et quand on regarde le pays dans lequel c'était un pays où il y avait les montagnes, c'était pas si évident que ça, et pourtant il va demander les montagnes. En fait, c'est viser ce qui semble impossible. Viser ce qui semble impossible. Une guérison, situation quelconque. Je vous l'ai déjà dit ici plusieurs fois. À un moment donné, mon papa, il avait reçu une parole me concernant. Mais la parole, elle s'est accomplie des années plus tard. Plus de 22 ans après, la parole s'est accomplie. Donc il avait eu le temps de douter. Mais surtout, ne perdez pas la foi. Ne doutez pas, si le Seigneur dit, alors les choses vont arriver. Alléluia. Et notre responsabilité également, un autre état d'esprit, c'est de transmettre un héritage. C'est de transmettre un héritage de foi. Je bénis Dieu pour les foyers chrétiens. Parce qu'il y a cette graine qui est semée. On est plusieurs ici, hein. Maintenant on se connaît, on est plusieurs à avoir eu des parents chrétiens. Puis à un moment donné, chacun a fait son propre choix. Et moi, par exemple, j'avais fait un choix. Je ne veux plus rien entendre des choses de Dieu. Je veux vivre ma vie et être dans la liberté. Comme si le Seigneur m'empêchait d'aller, si je n'étais pas libre de mes mouvements. Et puis je sais que, en fait, tout ce que cela procure, hein, d'aller voir ailleurs, on pense que l'herbe est plus verte. Puis finalement, on s'aperçoit que ce n'est même pas de l'herbe. C'est du gazon synthétique. Je vous promets, c'est la vérité. En fait, je l'image, parce qu'en fait, c'est ce que propose ce monde. On essaye de combler par des choses, mais le Seigneur, lui, il nous donne finalement la vraie liberté. Notre responsabilité, c'est d'influencer. Alors, dans le bon sens du terme, est-ce que je suis quelqu'un qui influence les membres de ma famille, les personnes que je vois à l'église, quand on vient me trouver? Moi, je bénis Dieu, hein, parce qu'encore aujourd'hui, ça me revient Quand on me dit, oui, j'ai discuté avec un frère, j'ai discuté avec une sœur de mon souci, de mon problème, il m'a exhorté, il m'a donné des bons conseils, gloire à Dieu. Amen. Donc on doit laisser cette marque, on doit être influent pour les générations qui arrivent. Amen. Et je conclue pour dire que Dieu nous a créés différents. Nous sommes différents. Et c'est là la puissance finalement. Christ nous a sauvés pour être différents. Amen. Le Saint-Esprit nous rend capables de différence. Le monde a besoin que l'on ose cette différence. Alors on pourrait faire cette prière. Seigneur, donne-moi le courage d'être ce que tu m'appelles à être. Même quand c'est difficile. Alléluia. Et si on fait cette prière, c'est notre conviction. Alors le Seigneur va nous aider. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Oui, Seigneur, tu es venu nous sauver. Ce matin, nous nous en sommes rappelés, nous tous. Et Seigneur, mon Dieu, nous voulons te dire merci encore parce que tu nous as, Seigneur, appelés à toi. Et tu as fait de nous, Seigneur, des êtres différents. Nous sommes différents. Que c'est toi qui vis en chacun d'entre nous. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous aide à être différents. Là où tu nous places, là où nous sommes, Seigneur, dans les familles, au travail, Seigneur, dans le quartier où nous sommes, Seigneur, que cette lumière, elle brille, qu'on puisse donner le goût, Seigneur, et que plusieurs puissent réaliser, Seigneur, que tu es le seul Dieu, le grand Dieu de l'univers. Seigneur, que s'il y a des craintes au milieu de nous, pour mon frère, ma sœur, tous ceux qui sont là, du courage, parce que nous avons partagé que oui, il y a la puissance à être différent. Et cette différence, elle vient de toi, Seigneur mon Dieu, que ton nom soit béni. Aide-nous à être ces gens qui se rassemblent et qui sont différents et qui vivent pour la cause de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Merci notre Dieu. Amen.